Chapitre 22. Quand la voiture fut arrivée sur le quai, le cocher se tourna de nouveau vers Nekhludov. « À quel hôtel allez-vous ? » ?
« Je ne sais pas. Quel est le meilleur hôtel ?»«
Le meilleur, c'est la Sibérie. Mais chez Doukhov, on est bien aussi. Mène-moi où tu voudras. »
Le cocher fouetta ses chevaux, et la voiture s'engagea dans les rues de la ville. Cette ville était pareille à toutes les villes. On y voyait les mêmes maisons aux toits plats, la même grande église, les mêmes boutiques, qui, dans la rue élégante, devenaient des magasins, les mêmes passants et les mêmes sergents de ville. La seule différence était que la plupart des maisons étaient construites en bois et que les rues n'étaient point pavées. Dans la plus animée de toutes ces rues, le cocher arrêta sa troïka devant le perron d'un hôtel. Mais l'hôtel était comble et l'on dut se remettre en route pour en chercher un autre. Enfin, Nekhludov parvint à se loger. Pour la première fois depuis 2 mois, il retrouva ses anciennes habitudes de propreté et de bien-être. Non que la chambre qu'il loua dans l'hôtel de Doukhov fût d'un luxe particulier, mais du moins elle était habitable. Et sa vue lui causa un vrai soulagement au sortir des chambres d'auberge qu'il avait habitées les nuits précédentes. Avant de penser à toute autre chose, il avait hâte de se défaire de ses poux, qu'il avait persécuté avec une ténacité extraordinaire durant tout son voyage d'étape en étape. Aussi, lorsqu'il eut installé ses effets, s'empressa-t-il de se faire conduire dans une maison de bain, où il passa plus d'une heure à se nettoyer. Puis, revenu à l'hôtel, il revêtit son costume de ville, une chemise empesée, un pantalon de drap gris, une redingote et un pardessus, afin de se rendre chez le gouverneur. Un fiacre, attelé d'un vigoureux petit cheval kirghize, le mena au trot jusque dans la cour d'une grande et belle maison, devant laquelle se tenaient 2 factionnaires et des sergents de ville. La maison était entourée d'un jardin, où, parmi les troncs dénudés des bouleaux et les trembles, apparaissait la sombre verdure des sapins. Le gouverneur était souffrant et ne recevait pas, mais Nekhludov pria le valet de chambre de lui porter sa carte, et le valet revint avec un sourire aimable, lui annonçait que son excellence l'invitait à entrer. L'antichambre, le valet, l'escalier, le salon au parquet ciré, tout cela ressemblait aux maisons de Pétersbourg, mais avec plus de grandeur et moins de propreté. Nekhludov n'eut point, d'ailleurs, à attendre longtemps dans l'énorme salon. À peine s'y était-il assis qu'on le pria de passer chez le gouverneur. Ce fonctionnaire, vêtu d'une robe de chambre jaune, une cigarette en main, était occupé à boire du thé dans un verre garni d'argent. C'était un gros homme sanguin, chauve, avec un nez rouge et des veines saillantes sur le front. « Veuillez m'excuser, prince, de vous recevoir en robe de chambre, mais mieux vaut vous recevoir dans cette tenue que de ne pas vous recevoir du tout, » dit-il en souriant, tandis qu'il se renfonçait dans son grand fauteuil. « Je suis souffrant et forcé de garder la chambre. Et qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous voir dans notre lointain royaume ?» J'accompagne un convoi de prisonniers où se trouve une personne qui me touche de près, répondit Nekhludov. Et c'est précisément à cette personne que se rapporte une des 2 requêtes que je voudrais présenter à votre excellence. Le gouverneur étendit les jambes, but une gorgée de thé, secoua la cendre de sa cigarette dans un cendrier de malachite, et, fixant sur Nekhludov ses petits yeux humides et brillants, il se mit à l'écouter avec la plus vive attention. 2 fois seulement, il l'interrompit pour lui offrir un verre de thé et pour l'inviter à fumer. Ce général appartenait à l'espèce de ces fonctionnaires intelligents qui, par nature, sont enclins à juger possible d'introduire dans leur profession une part d'humanité et de tolérance. Mais la nature lui avait donné aussi un grand fond de bonté et de sagesse, et il n'avait point tardé à sentir la vanité des efforts qu'il avait faits dans ce sens. Et pour échapper à la conscience de la contradiction intérieure où il se trouvait, il s'était adonné sans cesse davantage à l'habitude de boire de l'eau de vie. Cette habitude était devenue chez lui si forte qu'après 35 ans de service dans l'armée et dans l'administration, il était devenu ce que les médecins appellent un alcoolique. Il était tout imprégné d'eau de vie, au point qu'un petit verre d'alcool ou de vin suffisait à le mettre en état d'ivresse. Mais, par ailleurs, il ne pouvait s'empêcher de boire, et ainsi, tous les jours de sa vie, à l'approche du soir, il se trouvait absolument ivre. Il s'était cependant si bien adapté à cette situation que jamais on ne le voyait tituber, et que jamais non plus on ne l'entendait dire des choses incohérentes. Encore que, même s'il eût dit de telles choses, la haute position qu'il occupait n'eût permis à personne de s'en apercevoir. Mais c'était seulement le matin, à l'heure où Nekhludov s'était présenté chez lui, c'était alors seulement qu'il ressemblait à un homme sensé et était capable de bien comprendre ce qu'on lui disait. Les autorités supérieures dont il dépendait n'ignoraient point ses habitudes d'intempérance, mais elles savaient aussi qu'il était plus intelligent que la plupart de ses collègues et plus cultivé, bien que sa culture se fût arrêtée à la date où il avait été envahi par l'ivrognerie. On savait qu'il était hardi, adroit, représentatif. On savait que même ivre, il était capable de garder de la tenue. Et, en raison de tout cela, on l'avait laissé avancer de grade en grade jusqu'à ce poste de gouverneur qu'il occupait à présent. Chapitre 23. Nekhludov raconta au gouverneur comment la prisonnière qui l'intéressait avait été injustement condamnée et comment elle avait signé, avant de partir pour la Sibérie, un recours en grâce adressé à l'empereur. « Parfait, » fit le gouverneur, après l'avoir soigneusement écouté. « Et alors ?»« On m'a promis que le recours en grâce serait examiné le plus rapidement possible, et que la décision impériale nous parviendrait ici même, dans le courant de ce mois. » Sans cesser de tenir les yeux fixés sur Nekhludov, le gouverneur étendit vers la table sa grosse main aux doigts courts, pressa un timbre et se remit à écouter en silence. « Alors, je voudrais demander à votre Excellence, si la chose est possible, de faire en sorte que l'on garde ici cette prisonnière jusqu'au moment où l'on connaîtra la réponse à son recours en grâce. » Nekhludov fut interrompu par l'entrée d'un valet de chambre en grande tenue militaire. « Va donc demander si Anna Vassilievna est levée, » dit le gouverneur au valet de chambre, « et apporte encore du thé. » Puis, se retournant vers Nekhludov, « Et ensuite ?»« Ma seconde requête, » poursuivit Nekhludov, « concerne un condamné politique qui fait partie du même convoi. »« Ah, bah !» dit le gouverneur, avec un signe de tête aimablement grondeur. « Ce malheureux est très malade. Il est mourant. On va sans doute le laisser ici à l'infirmerie. Et une de ses compagnes, une condamnée politique, voudrait avoir la permission de rester près de lui. Elle n'est pas sa parente ? Non, mais elle est prête à se marier avec lui, si elle peut, à ce prix, obtenir l'autorisation de lui tenir compagnie. » Le gouverneur, sans rien dire, continuait à considérer Nekhludov de ses yeux brillants, comme s'il avait cherché à l'intimider par la force de son regard. Quand Nekhludov se tut, attendant sa réponse, il se leva de son fauteuil, alla prendre un livre dans sa bibliothèque, le feuilleta rapidement et passa quelques minutes à y lire un passage qu'il suivait du doigt. « Cette femme, à quoi est-elle condamnée ? » demanda-t-il enfin en relevant les yeux. « Aux travaux forcés. Eh bien, la situation du condamné ne serait nullement modifiée par l'effet de son mariage. Mais c'est que, permettez, si même cette femme se mariait avec un homme libre, elle devrait continuer à subir sa peine. La question est de savoir si c'est elle ou lui qui est condamné à la peine la plus forte. Tous deux sont condamnés à la même peine, les travaux forcés à perpétuité. Eh bien, voilà une affaire réglée, dit en souriant le gouverneur. Leur mariage ne saurait rien changer, ni pour lui, ni pour elle. Lui, s'il est malade, on pourra le garder ici. Et, naturellement, on fera tout ce qui sera possible pour améliorer son état. Mais elle, si même elle se mariait avec lui, elle serait forcée de suivre le convoi. « La générale est levée et vient de descendre pour le déjeuner, » annonça le valet de chambre. Le gouverneur hocha la tête et poursuivit. « Au reste, je vais encore y songer. Comment s'appellent ces condamnés ? Tenez, voudriez-vous inscrire leur nom, là, sur ce papier ?» Nekhludov inscrivit les noms. « Et cela non plus, je ne puis pas le permettre, » dit le gouverneur lorsque Nekhludov lui eut demandé pour lui-même l'autorisation de voir le malade. « Ne croyez pas, au moins, que je vous soupçonne, » reprit-il, « mais je vois ce qui en est. Vous vous intéressez à ces gens-là, vous voulez leur rendre service, et puis vous avez de l'argent. Or, ici, chez nous, tout est à vendre. On me dit souvent, vous devriez essayer de déraciner la vénalité. » Mais comment la déracinerais-je quand du haut en bas, tout le monde se vend? et puis allez donc surveiller des fonctionnaires sur une étendue de 5000 verstes. Chacun d'eux est un petit tsar, tout comme moi ici, ajouta le gouverneur avec un gros rire. Oui, je vois ce que c'est. Sur tout votre trajet, vous avez été admis à voir les condamnés politiques. Vous avez donné des pourboires, et on vous a laissé passer. C'est bien ainsi, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai.
Je comprends que vous ayez fait cela. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous vouliez voir un condamné politique, vous employiez les moyens nécessaires pour le voir. Et l'officier de police ou le gardien du convoi, lui, vous laissait entrer moyennant un pourboire, parce que sa solde ne lui permettait pas de faire vivre sa famille sans de petits suppléments du genre de cela. Il avait raison, et vous aussi. Et à votre place, ou à la sienne, j'aurais fait la même chose. Mais, à ma place, à moi, je ne puis me permettre la moindre infraction à la règle. Et cela d'autant plus que, par nature, je serais plus tenté de me montrer indulgent. Je suis chargé d'une mission que l'on m'a confiée sous des conditions déterminées. Je dois justifier cette confiance. Et voilà, c'est tout ce que je puis vous dire sur l'affaire en question. Mais maintenant, à votre tour, racontez-moi un peu ce qui se passe chez vous, dans votre Europe, à Pétersbourg, à Moscou. Et le gouverneur pressa Nekhludov de questions diverses, moins encore pour s'informer vraiment que pour montrer à la fois son importance et son affabilité. Et ici, où logez-vous ? Chez Doukhov ? On y est pas mal, mais cela ne vaut pas l'hôtel de Sibérie. Mais dites donc, ajouta le gouverneur au moment où Nekhludov allait prendre congé, dites donc, vous allez venir dîner avec nous. À 5 heures, n'est-ce pas ? Vous parlez anglais ?
Oui, je parle anglais.
Eh bien, voilà qui s'arrange à merveille. Figurez-vous que nous avons en ce moment ici un Anglais, un voyageur. Il a obtenu l'autorisation à Pétersbourg de visiter nos prisons et nos étapes sibériennes. Et précisément, il dîne avec nous ce soir. Venez sans faute, vous nous obligerez. Et en même temps, je vous rendrai réponse au sujet de cette femme qui attend sa grâce. Et puis au sujet de votre malade. Je verrai s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour eux. Chapitre 24. Ayant pris congé du gouverneur, Nekhludov se rendit à la poste. Il se sentait plus en veine d'activité qu'il ne s'était senti depuis bien longtemps. Le bureau de poste occupait une grande salle voûtée, humide et sombre. Derrière des grillages, une dizaine d'employés étaient assis, la plupart bavardant entre eux, tandis que dans l'espace réservé au public, une foule impatiente se pressait et se bousculait. Près de la porte, un vieil employé passait tout son temps à frapper d'un timbre d'innombrables enveloppes qu'un de ses collègues lui tendait au fur et à mesure. Nekhludov n'eut pas à attendre longtemps. Dans ce bureau, comme presque partout, sa tenue de barine lui valut un tour de faveur, et un des employés qui bavardait lui fit aussitôt signe qu'il pouvait s'approcher. Nekhludov donna sa carte. L'employé, respectueusement, lui remit le volumineux courrier qui se trouvait pour lui à la poste restante. Dans ce courrier étaient plusieurs lettres chargées, et d'autres lettres, et quelques livres, brochures et journaux. Pour jeter au moins un premier coup d'œil sur tout cela, Nekhludov s'assit sur un banc de bois, à côté d'un soldat qui restait là à attendre, un registre en main. Parmi les enveloppes des lettres, une d'elles surtout l'intrigua, une grande enveloppe avec un cachet rouge des plus imposants. Il ouvrit l'enveloppe, regarda la signature de la lettre, et aussitôt il sentit que le sang lui affluait au visage et que son cœur battait à se rompre. La lettre portait la signature de Sélénine, l'ancien ami de Nekhludov, maintenant procureur au Sénat. Et à la lettre était joint un papier officiel. C'était la réponse au recours en grâce de la Maslova. Quelle était cette réponse ? Un refus ? Nekhludov brûlait de le savoir. Et cependant, il n'osait se décider à lire la lettre qui allait le lui apprendre. Enfin, il trouva la force de déchiffrer les quelques lignes que lui écrivait Sélénine. Et il poussa un soupir de soulagement. La grâce de la Maslova était accordée. « Cher ami, écrivait Sélénine, notre dernier entretien m'a laissé une impression profonde. Tu avais raison au sujet de la Maslova. J'ai étudié son affaire de près, et je me suis aperçu que sa condamnation résultait d'une erreur évidente. Impossible, malheureusement, de songer à faire casser l'arrêt. de sorte que je me suis adressé à la commission des grâces. J'ai appris avec joie que la requête de ta protégée s'y trouvait déjà, et j'ai pu, Dieu merci, obtenir satisfaction. Je t'envoie ci-jointe la copie du décret. Je te l'envoie à l'adresse que vient de me donner la comtesse Catherine Ivanovna. Quant au décret lui-même, il a été envoyé à la Maslova, dans la ville où a été prononcé le jugement. Mais j'imagine qu'on l'aura fait suivre, et qu'il ne tardera pas à être remis à ta protégée. Je m'empresse en tout cas de t'annoncer cette bonne nouvelle, et je te serre la main affectueusement. Ton Sélénine. Le décret dont Sélénine envoyait à Nekhludov la copie était rédigé ainsi. Chancellerie de sa grandeur impériale, Bureau des Grâces. Sur l'ordre de sa grandeur impériale, la nommée Catherine Maslov est informée que sa grandeur impériale, ayant pris connaissance de sa requête, a daigné changer la condamnation à 4 ans de travaux forcés, encourue par elle, en celle de 4 ans de déportation dans un gouvernement quelconque des frontières de la Sibérie. Heureuse, bien heureuse nouvelle! Elle réalisait tout ce que Nekhludov pouvait souhaiter pour Katyusha et pour lui-même aussi. Mais il songea ensuite que ce changement dans la situation de Katyusha allait modifier les conditions de ses rapports avec elle. Aussi longtemps qu'elle restait condamnée aux travaux forcés, le mariage qu'il se proposait de contracter avec elle était une union toute fictive et n'avait de sens qu'en ce qu'il allégerait le sort de la condamnée. Mais à présent, le mariage devenait une chose plus sérieuse. À présent, rien n'empêchait plus Nekhludov et Katyusha de mener la vie commune, ainsi que doivent le faire un mari et une femme. Et Nekhludov, à cette pensée, se sentait ressaisi de son ancienne frayeur. Il se demandait avec angoisse s'il était prêt pour cette vie commune, et force lui était de se répondre qu'il n'y était point prêt. Et puis le souvenir lui revint des relations de Katyusha avec Simonson. Les paroles qu'elle lui avait dites la veille, que signifiait-elle? Et si vraiment elle consentait à se marier avec Simonson, ce mariage serait-il un bien pour elle? Serait-il un bien pour lui, Nekhludov? Toutes ces questions se pressaient en lui, et il ne savait qu'y répondre. De sorte qu'il eut recours, une fois de plus, à son procédé ordinaire. « Je déciderai tout cela plus tard, tout à l'heure, » se dit-il. « À présent, je dois avant tout chercher à revoir Katyusha, à lui communiquer l'heureuse nouvelle, et à hâter les formalités de sa libération. » La copie que venait de lui envoyer Sélénine y suffirait sans doute, en attendant la notification officielle du décret. Et Nekhludov, sortant du bureau de poste, se fit conduire à la prison où devaient être internés les prisonniers du convoi.